Louis Pergaud, Le roman de Miro, Chien de chasse, troisième partie, chapitre 5. Il faut au moins que vous le voyez, afin qu'il vous connaisse déjà un peu pour partir. Lisez va vous conduire à sa niche, proposa la guélotte. Je le connais déjà, moi, répondit l'acquéreur. Débarricadant les portes lentement, le cerveau lourd, sans pensée, en homme accablé, Lisée arriva avec son compagnon à la remise où Miro attaché sommeillait, son entrave au cou. « Le voilà, » annonça-t-il en le désignant du geste. Et il s'approcha de l'animal qu'il caressa de la main et auquel il parla affectueusement. L'étranger, le nouveau maître, suivait Lisée, et ce fut sur lui que se porta d'instinct le regard du chien. Tout d'abord, en apercevant Lisée, il ne s'était pas levé, se contentant de soulever la tête, de le regarder avec de grands yeux tristes, et, ce qui témoignait chez lui de l'indécision, de frapper de sa queue, à coups réguliers et assez vifs, la paille de sa litière. Mais dès qu'il aperçut cet autre humain, habillé différemment des gens qu'il avait coutume de voir, un chapeau sur la tête, un manteau sur le bras, l'inquiétude sourdement l'envahit. Une prescience vague lui dénonçait un danger, et Lisée restant malgré tout son protecteur naturel, ce fut vers lui qu'il se réfugia, vite debout, se frottant à son pantalon, lui léchant les mains et lui parlant à sa manière. De même que les corbeaux et les chats chez qui la chose n'est pas douteuse, et sans doute tous les grands animaux sauvages, les chiens ont un langage articulé ou nuancé et se comprennent entre eux parfaitement. Miro se faisait également entendre du mic, de mitis et de mout, et ces derniers aussi lui tenaient assez souvent des discours brefs dans lesquels on se disait tout ce que l'on voulait se dire, et rien que ça. Sans que Lisée eût parlé, car s'il eût émis la moindre phrase relative à une séparation, le chien, qui comprenait tout ce qui se rapportait à lui, l'aurait certainement saisi dans tous ses détails. Il sentit, rien qu'à son air triste, de même qu'à la volonté de l'autre de se faire bien voir, qu'il y avait entre eux deux un pacte secret le concernant. Instinctivement, il fuyait les caresses de l'étranger, se contentant de le regarder avec des yeux inquiets, agrandis par la tristesse et l'étonnement. Les compliments que l'autre lui adressa, pour sincère que les sentiments Miro ne réduisèrent point sa méfiance, et il refusa froidement un bout de sucre qui lui fut tendu en signe d'alliance. Lisée, ayant ramassé le morceau tombé, le décida tout de même à le croquer, mais il le cassa sans enthousiasme et l'avala sans le sentir. « Je vais toujours lui ôter l'entrave, » décida l'acheteur qui s'était nommé M. Pitancet, rentier au Val. Mais ce geste libérateur qui, pensait-il, lui concilierait les bonnes grâces et lui attirerait l'amitié du chien, ne réussit qu'à accentuer sa méfiance et à confirmer ses soupçons. Le nez humide et les yeux brillants, il se collait de plus en plus aux jambes de son ancien maître qui ne se lassait de le cajoler, de le tapoter, triste jusqu'à la mort de la séparation prochaine. Après une dernière embrassade, une dernière caresse, on laissa Miro sur sa litière, et pour régler définitivement l'affaire, les deux hommes se rendirent à l'auberge. « Comment avez-vous su que mon chien était à vendre ?» questionna Lisée. « Ma foi, » répliqua l'autre, « à vous dire la vérité, je n'en ai été à peu près sûr qu'en arrivant à Velleran, où l'aubergiste m'a confirmé la chose. Je vous avouerai toutefois que je me doutais bien qu'un jour ou l'autre vous seriez obligé de vous en débarrasser, car je me suis trouvé par hasard au tribunal à tous vos procès, et je puis bien, entre nous, vous dire que les juges se sont montrés avec vous de fameuses rosses. Depuis longtemps, je connais de réputation votre chien, et comme j'ai l'intention de chasser cet automne, je me suis dit, puisque tu n'es pas très habile ni très connaisseur, un bon animal au moins t'est nécessaire. C'est pourquoi, après votre dernière condamnation, j'ai décidé à tout hasard que je monterais jusqu'ici au-dessus. On m'a bien prévenu à Velleran qu'il serait assez dur de vous décider, mais que votre femme, elle, ne voulait plus entendre parler de le garder, et je suis venue. Mon pauvre Miro, gémit Lisée. Soyez tranquille, le rassura Monsieur Pitancet. Il sera bien soigné chez moi. Nous n'avons à la maison ni chat ni gosse, et ma femme ne déteste pas les chiens. Une si bonne bête, reprenait Lisée. Et pendant qu'il vidait une vieille bouteille en mangeant un morceau, le chasseur, dans une sorte d'enthousiasme sombre et désespéré, entamait l'éloge de son chien. Pour lancer, monsieur, il n'y en a point comme lui. Dès qu'il est sur le frais, il s'agit de faire bien attention, d'ouvrir l'œil et de se placer vivement. Il n'est pas bavard. Une fois qu'il a averti par deux ou trois coups de gueule, on peut être sûr que moins de 5 minutes après, il aura levé. Et poursuivre, poursuivre. Ah, ce n'est pas lui qui perdra son temps à des doublés et à des crochets. Ah, mais non, les lièvres ne la lui font pas, hein, Miro. Et quel que soit le jour, il lancera. Et il faudra que votre oreillard soit bien malin, allez, pour qu'il ne vous le ramène pas. Élisée continuait. À la maison, il vaut mieux qu'un chien de garde. Il sait reconnaître les amis. Il ne fait pas de mal aux gosses. Et si un rouleur voulait jamais s'introduire, qu'est-ce qu'il prendrait? Il le boufferait, monsieur, tel que je vous le dis. Ah, pensez que nous étions si bien habitués l'un à l'autre, et qu'il faut que nous nous quittions. J'avais pourtant juré qu'on ne se séparerait jamais. Mais, monsieur, malgré la vieille, qui n'a jamais pu le sentir, la rosse, il trouvait moyen de venir me retrouver dans le lit de la chambre haute, en ouvrant les portes. Car il sait ouvrir les portes, méfiez-vous, si vous voulez. Il ouvre toutes les portes quand ça lui dit. C'est même comme ça qu'il s'est sauvé plusieurs fois. Mais ne comptez pas qu'il vous les refermera. Non, fermer les portes, ce n'est pas son affaire. Une porte fermée le gêne. Une porte ouverte ne le gêne pas. Et quand il est arrivé à ce qu'il voulait, lui, et à se faire plaisir, sauf votre respect, monsieur Pitancet, il se fout du reste. J'espère qu'il s'habituera assez vite. Toutes les bêtes s'habituent au changement. Toutes peut-être, mais pas lui. Miro n'est pas comme les autres. J'ai eu bien des chiens dans ma vie. Mais jamais, vous m'entendez, jamais, je n'en ai eu un comme celui-là. Ah, vous avez de la chance d'être en voiture, parce que vous pourriez vous brosser pour l'emmener à pied. Vous ne seriez pas de sitôt au Val. Vous croyez, douta monsieur Pitancet, avec du fromage, du sucre, dont je lui donnerai un petit bout de temps en temps? Peut-être avec des autres, avec des jeunes, ça réussirait-il. Mais avec lui, oh là là! Quand il a décidé quelque chose, il n'y a rien à faire. Il n'y a que moi qui l'écoute, et mon camarade Philomène avec qui je chasse depuis 20 ans. Et aussi un peu l'ami Pépé. Vous savez bien, Pépé de Velleran, celui qui tue tant de lièvres tous les ans. Les autres, rien à faire. Souvent, les grosses légumes de Roquefontaine sont venues chasser avec moi. Les salauds! Et pas un ne m'a aidé dans mes procès. Eh bien, dès qu'ils voyaient, dès qu'ils sentaient que je n'étais plus avec eux, ils ne moisissaient pas en leur compagnie, et ils m'avaient bientôt retrouvé. Ils se feraient traîner, ils s'useraient les pattes jusqu'aux genoux, je veux dire jusqu'aux jarrets, et vous lui arracheriez le cou plutôt que de le faire avancer. En voiture, il sera bien forcé de se tenir. Mais je ne serais pas étonnée si, une fois là-bas, malgré la distance, il se sauve et revient me voir. Ils reviennent presque toujours revoir leur premier maître, mais c'est l'affaire de quelques voyages. Et s'ils sont mal reçus, ils se résignent vite à demeurer à leur nouveau logis, surtout s'ils y sont bien traités. Si d'aventure Miro s'échappe avant d'être bien habitué au Val, et qu'il retourne à Longeverne, vous le soignerez naturellement, et je vous paierai ce qu'il faudra pour sa pension. Mais je compte bien que vous ne ferez rien qui puisse l'encourager à recommencer. Ça me sera dur de le gronder, prévint Lisée. Une bête avec qui j'ai passé de si bons moments et qui m'aime tant. Mais c'est votre chien maintenant, et je ne le rattirerai pas. Allons le chercher pendant qu'on mettra mon cheval à la voiture, décida M. Pitancet. Durant leur absence, Miro, qui s'était rassis puis recouché sur la paille, songeait, très inquiet, en proie à des pensées contradictoires, à des soupçons multiples et à des craintes terribles. Il appréhendait le retour de Lisée, non point pour lui-même, mais parce qu'il se doutait que l'autre s'attacherait à lui. Pourtant, s'il lui avait voulu du mal, il ne l'eût pas tant attendu, et du moment qu'il était parti, il ne reviendrait peut-être pas. Et qui aurait pu savoir les sombres pensées qu'il roula, les problèmes qu'il agita, et dont les manifestations extérieures se traduisaient juste par une inquiétude du regard, un froncement de paupières, des frémissements de mufles, de légers tremblements de pattes, et l'obstination avec laquelle il regardait du côté de la porte. Sa frayeur devint si intense quand il perçut dans le sentier de l'enclos deux pas bien distincts qu'il reconnut aussitôt. Celui de Lisée et celui de l'autre. Et elle s'accentua encore quand le son de la voix de l'étranger ne lui permit plus le moins du monde de douter que c'était bien lui qui revenait. Il se leva tout droit sur sa couche, le cou abaissé au niveau des épaules, la tête allongée dans le prolongement du cou, et fixa plus intensément encore la porte de la remise qui s'ouvrit bientôt et livra passage aux deux hommes. Lisée avait un air sombre et fermé qui contrastait avec la physionomie joyeuse de son compagnon. Derrière eux, la tête ricanante de la guélotte apparut à son tour, et Miro, nettement, se sentit sacrifié et perdu. Qu'allait-il lui arriver ? Il n'en savait rien encore, mais il craignait quelque chose de pire que la prison et de pire que les coups. Il craignait. La crainte, dans certains cas, est plus cruelle que le malheur lui-même. Elle faisait pour l'heure battre à grands coups le cœur du chien. « Viens, mon petit, viens !» appela d'un air aimable M. Pitancet. « Viens près de moi, voyons !» Et il lui tapotait le crâne, tandis que Lisée détournait la tête pour cacher son émotion. « Grand imbécile !» ricana sa femme. « Tu ne ferais pas tant de grimaces pour moi. Ce n'est qu'un chien !» Cependant, M. Pitancet, ayant détaché Miro, lui tendait un bout de fromage. « Pour bien faire connaissance, affirmait-il. » Ensuite de quoi, il le caressa de nouveau, le cajola, le câlina, le gratta sous les oreilles et sous le cou, l'invitant à le suivre au dehors. « Viens, mon petit !» Mais Miro, résolument, tirait du côté de Lisée, le regardant de ses yeux agrandis et désespérés, et pleurant et suppliant à petits abois tendres et tristes. Le chasseur ne résista pas. Il s'accroupit devant le chien et longuement l'embrassa et lui parla. « Il le faut, mon pauvre vieux. Résignons-nous. » La résignation est une vertu chrétienne et n'était pas le fait du Miro, qui enfonçait plus que jamais son nez dans le gilet de chasse de son ami et de sa patte le grattait à vif partout où il trouvait un pouce carré de chair. « Il vaut mieux, Émile l'acheteur, que vous ne le caressiez pas tant. »« C'est vrai, convint Lisée. Ce n'est plus le mien maintenant, et je n'ai même plus le droit de l'embrasser. »« Emmenez-le, monsieur, emmenez-le. Ça me fait trop de peine, et à lui aussi de prolonger plus longtemps les adieux. »« Si on peut être bête à ce point-là, » marmonnait la guélotte. Lisée lui jeta un coup d'œil terrible, et elle jugea prudent de se taire immédiatement. Non point tant par la crainte des coups que par l'appréhension de voir son mari revenir sur sa parole et défaire le marché. On sortit, mais comme l'avait prévu Lisée, Miro refusa obstinément d'avancer. Campé sur les quatre pattes, le cou tendu, il résistait de tous les muscles de sa poitrine, de tous les tendons de ses jarrets, de tous les ligaments de ses vertèbres, de toutes les griffes de ses pattes fichées violemment en terre. « Allez, charogne !» grogna la guélotte en le poussant par derrière. Il résista de plus belle, le fessier cintré, suffoquant et crachant, parce que le collier l'étranglait de l'autre côté. « Je vous prierai de me l'amener jusqu'à la voiture, » demanda M. Pitancet. « Pour qu'il n'ait pas peur et ne se doute pas trop, je prendrai par la route du village, et vous par le verger. » résigné à boire jusqu'à la lie le calice, Lisée reprit en main la laisse, tandis que l'acheteur à grands pas s'éloignait. « Viens, mon petit Miro, » appela-t-il. Le chien avait suivi d'un œil farouche le départ de l'inconnu. Il vint se jeter dans les jambes de Lisée, japotant et se tortillant, et le chasseur put l'emmener en passant par le sentier du clos. Mais quand on arriva en face de chez Fricot, et que Miro revit l'homme auprès de la voiture attelée, une transe nouvelle le saisit. Il comprit tout, et regardant Lisée avec des yeux pleins d'un sombre et muet reproche, refusa de nouveau obstinément de faire un pas. Le patron, pour l'amener à la voiture, dut le prendre de force dans ses bras, où il se débattait, et le porter comme un enfant. Sur une brassée de paille préalablement disposée à côté du siège, Lisée déposa Miro, tandis que le conducteur, saisissant la corde, l'attachait très court et solidement au siège d'abord, au porte-lanterne ensuite, afin que le chien ne pût ni renverser le premier, ni sauter et se tuer en cours de route, en tombant malencontreusement sous les roues. Pour qu'il ne vît point ses préparatifs et ses dispositions, Lisée, durant ce temps, l'entourait toujours de ses bras et l'embrassait en lui parlant. Quand tout fut solidement arrimé, le nouveau maître, brusquant les adieux, serra la main de Lisée et fouetta vigoureusement son cheval. Et Lisée resta là, immobile, muet, navré, sombre, désespéré, ne répondant rien aux gens qui l'interrogeaient, regardant stupidement s'éloigner et disparaître au loin cette voiture de malheur où son chien, son cher Miro, qu'il avait eu la lâcheté de vendre, hurlait, ficelait et se débattait désespérément. Cependant, à Vélran, Pépé, dont la jambe allait mieux et qui commençait à remarcher, faisait une petite promenade, se soutenant sur deux bâtons. Il suivait la route à petits pas, lentement. Entendant un bruit de voiture, il se rangea au bord de la chaussée pour la laisser passer. Et il vit, ahuri, un homme qu'il ne connaissait point, emmenant, attaché, un chien qui maintenant ne criait ni ne hurlait, mais qui avait un air tragique et lugubre, et tournait invinciblement la tête dans la direction de Longeverne. « Mais c'est Miro !» s'exclama-t-il, saisi tout à coup d'une sombre inquiétude. « Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Et il rentra chez lui, très agité, roulant toutes sortes de pensées, se demandant pourquoi on ne l'avait avisé de rien, tandis qu'à Longeverne, Lisée, couché sur son lit, le nez au mur, fermait les yeux, la tête bourdonnante, essayant en vain de dormir pour oublier un peu son chagrin.